Bien, bonjour à tous.
Comme Laura a dit, je m'appelle Daniel, je travaille pour le CEL, je fais partie de l'église Passage Vatio depuis 12-13 ans maintenant. Je suis dans l'équipe pastorale de la partie francophone. Et donc on m'a demandé de parler avec vous du sujet de l'intimité avec Dieu. L'intimité avec Dieu, c'est un sujet délicat. Alors c'est un sujet délicat d'abord parce que c'est un défi pour moi de le traiter. C'est pas forcément le thème que je vous aurais proposé spontanément si vous m'aviez laissé libre du choix du thème, mais c'est un défi et que j'ai voulu relever avec vous pendant ce week-end. C'est un sujet délicat surtout parce que je pense que c'est un sujet qui demande à être traité avec délicatesse. Plus que d'autres sujets, le sujet de l'intimité avec Dieu, c'est un sujet qui implique notre expérience personnelle, avec tout ce qui va avec notre expérience personnelle, notre culture, le groupe social auquel nous appartenons, notre histoire. Et toute cette expérience personnelle, elle va colorer notre lecture de la Bible et notre intimité avec Dieu. C'est un sujet délicat parce que il implique notre expérience ou notre absence d'expérience. Personne n'est neutre par rapport au sujet de l'intimité avec Dieu. Vous tous qui êtes ici ce matin, soit vous avez une intimité avec Dieu, soit vous n'en avez pas. Mais il n'est pas possible que vous soyez simplement un observateur extérieur à ce sujet qui puisse le regarder de manière complètement détachée. Soit vous avez une intimité avec Dieu, et si vous avez une intimité avec Dieu, et je pense que la majorité d'entre vous, peut-être tous ici, ont cette intimité avec Dieu, si vous avez une intimité avec Dieu, c'est forcément l'une des choses les plus importantes dans votre vie. C'est forcément l'une des choses les plus importantes qu'on puisse dire quand on parle de vous. Donc c'est forcément quelque chose qui ne peut pas vous laisser indifférent. Et donc c'est quelque chose où si j'en parle mal, ou si j'en parle d'une manière qui va à l'encontre de votre expérience, vous allez vous sentir heurté, ou vous allez vous sentir remis en question, ou vous allez vous dire « mais qu'est-ce qu'il raconte ?» À l'inverse, si vous n'avez pas d'intimité avec Dieu, bah, c'est un vide dans votre vie. Vous entendez parler d'intimité avec le Dieu qui créa tout l'univers, le Dieu qui va mourir au calvaire, et vous dites « mais non, ça correspond à rien dans ma vie. » En fait, pour aller même plus loin, d'après la Bible, si vous n'êtes pas dans une relation d'intimité avec Dieu, on pourrait dire que vous êtes dans une relation d'inimitié avec Dieu, comme des ennemis. Vous n'êtes de toute façon pas en situation neutre face à Dieu. Soit vous êtes dans cette relation d'intimité avec lui, soit vous êtes dans une relation plus que délicate. C'est un sujet délicat, donc, parce que, en fait, c'est un sujet qui parle de nous. C'est un sujet dans lequel nous sommes tous impliqués. C'est un sujet que nous ne pouvons pas aborder d'une manière uniquement théorique. Les uns et les autres, nous avons tous des parcours très différents avec Dieu. Alors, c'est vrai que il y a des points communs à tout parcours authentiquement chrétien. Il y a des points communs à toutes les formes authentiques d'intimité avec Dieu. Tout chrétien, quel qu'il soit, quelle que soit sa culture, son âge, l'endroit où il habite, son milieu social, son histoire, tout chrétien marche avec Dieu. Tout chrétien, pour s'approcher de Dieu, passe par Jésus. Jésus est le seul chemin pour aller à Dieu, le seul chemin pour tout le monde. Et puis, pour tout chrétien, c'est le Saint-Esprit qui est l'auteur de notre relation avec Dieu. Donc, pour chaque chrétien, quel qu'il soit, il y a des points communs à son parcours avec Dieu, à son intimité avec Dieu. Chaque chrétien marche avec Dieu, passe par Jésus pour aller à Dieu, vit une relation avec Dieu par le Saint-Esprit. Mais pour reprendre une expression du théologien Louis Schweitzer, s'il y a un seul chemin, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de cheminements. Beaucoup de cheminements très différents, beaucoup d'histoires très différentes, beaucoup de manières très diverses d'expérimenter la présence de Dieu. Et c'est un des pièges dans certaines églises ou dans certains milieux chrétiens que de stéréotyper les parcours spirituels. On vous dit qu'un vrai chrétien, ben, on passe par telle étape, telle étape, telle étape, telle étape, telle étape. Alors, je ne sais pas comment c'est dans votre église, peut-être que dans certains milieux chrétiens, ça va être, on commence par la conviction de péché, puis ensuite il y a une crise, une prière de conversion, et ensuite peut-être il va y avoir le baptême, et puis ensuite il va y avoir telle et telle discipline spirituelle qui vont s'imposer dans la vie, etc., etc. Et le parcours, il est bien stéréotypé, vous vivez telle et telle chose avec Dieu, et si vous ne les vivez pas, t'es sûr que t'es vraiment converti? T'es sûr que t'es vraiment chrétien? T'es sûr qu'il n'y a pas un gros problème dans ta vie? C'est un des pièges de certains milieux chrétiens que de stéréotyper les parcours spirituels, d'avoir peu de place pour des histoires différentes, pour des manières différentes de vivre l'intimité avec Dieu. Je me souviens qu'à une époque où j'étais responsable d'un groupe de jeunes dans une autre église que Vatio, il y avait une jeune fille qui m'avait un peu parlé de son expérience avec Dieu, et ce qu'elle racontait correspondait pas du tout à mon expérience avec Dieu. Et ça me faisait un peu froncer les sourcils, c'était un peu suspect pour moi, ce qu'elle disait. Et j'avais pas forcément tort d'ailleurs. Mais je me suis dit, attention. D'abord, peut-être que Dieu fait quelque chose que je comprends pas dans la vie de cette personne. Et puis, même si tout n'est pas tout à fait correct dans ce qu'elle vit, peut-être que Dieu l'a fait quand même passer par là. Fais attention à ne pas piétiner quelque chose que Dieu est en train de faire. Vous ne savez pas si la personne qui est à côté de vous et qui a un parcours spirituel différent du vôtre et qui vit l'intimité avec Dieu de manière différente de la vôtre, et peut-être même avec des éléments qui sont un peu bizarres, mais Dieu peut peut-être la rejoindre par là, et s'il faut redresser quelque chose dans sa vie, il faut le faire avec délicatesse. Et l'un des défis qui se présente à moi comme orateur, c'est de ne pas réduire ce qui concerne l'intimité avec Dieu à ce que je pense sur le sujet ou à ce que j'en ai expérimenté. Alors comment est-ce que nous allons nous y prendre pour aborder notre sujet? Il y aurait une multitude de manières de le faire et nous pourrions en fait passer beaucoup plus de temps que les trois séances que je suis chargé d'animer. Et je vais devoir me contenter de quelques coups de projecteur dans le sujet de l'intimité avec Dieu sans prétendre traiter de tout ce que la Bible dit là-dessus. Mais j'espère que ce sera trois coups de projecteur qui seront pas superficiels et qui vous donneront envie de creuser vous-même ensuite. Peut-être dans les petits groupes et peut-être un peu plus tard en relisant les textes bibliques que j'aurai cités ou bien en re-réfléchissant pour vous-même à ce dont nous allons parler. Mon approche sera plutôt thématique et même parfois un peu théologique, ça c'est ma manière de faire les choses. Et donc je vais me référer à un certain nombre de textes bibliques et un certain nombre de doctrines. Et chemin faisant, je vais à la fois citer des textes bibliques, mais je vais aussi citer des textes d'autres auteurs chrétiens qui peuvent nous aider à avancer. Donc on va commencer dans la première séance à parler de l'intimité avec Dieu. Quelle est l'intimité que Dieu nous ouvre? Sur quoi est-ce qu'elle se fonde? Quels sont les fondements? Quel est le cadre dans lequel se vit l'intimité avec Dieu? Et peut-être commencer à en donner quelques caractéristiques. Et puis cet après-midi, je voudrais aborder un sujet que je crois vraiment très important et dont je ne suis pas sûr qu'on entende si souvent parler que ça dans nos églises, et qui est quand l'intimité avec Dieu semble avoir disparu. Quand j'ai l'impression que j'ai plus d'intimité avec Dieu, pourquoi est-ce que ça peut arriver? Et quelle direction prendre dans une situation comme celle-là? Et puis, demain, je voudrais parler de comment cultiver l'intimité avec Dieu. Pour commencer, donc, le premier thème, ce qu'est l'intimité avec Dieu et sur quoi est-ce qu'elle se fonde, dans le cadre dans lequel elle se déroule, je voudrais que nous lisions quelques versets dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 8, les versets 14 à 17. Romains, chapitre 8, les versets 14 à 17. Je vais lire un certain nombre de textes bibliques, mais je ne ferai pas des études bibliques détaillées de chaque verset que nous allons lire. Romains, chapitre 8, verset 14, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers du Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être aussi glorifiés avec lui. L'intimité avec Dieu. Alors, commençons peut-être par éclaircir le sens de notre sujet. Qu'est-ce que ça veut dire, l'expression « l'intimité avec Dieu » ? La première chose qu'on peut en dire, c'est que ce n'est pas une expression biblique. À ma connaissance, il n'y a aucun texte biblique qui utilise les mots « l'intimité avec Dieu ». C'est un mot français. Alors, je suis allé voir dans le dictionnaire ce qu'on en disait. Et dans le dictionnaire, vous avez plusieurs définitions du mot « intimité ». Et la définition qui m'a semblé être la plus proche de ce qu'on m'avait demandé de parler pendant ce week-end, c'est la suivante. Liaison, relation étroite et familière. Liaison, relation étroite et familière, avec comme exemple l'intimité entre deux amis ou l'intimité conjugale, donc dans un couple. L'intimité, c'est une liaison, une relation étroite et familière. Et j'ai envie de rajouter quelques éléments à cette définition. C'est quelque chose qui caractérise une relation dans la durée. L'intimité ne se limite pas au moment où nous cultivons cette intimité. Mais si nous ne cultivons pas l'intimité, elle risque de finir par s'étioler et par disparaître. J'ai aussi envie de rajouter quelque chose qui va vous sembler évident, mais enfin ça vaut la peine de le dire, ça va compter dans ce que je vais dire ensuite, c'est que l'intimité, ça parle d'une relation entre des personnes. On ne peut pas avoir d'intimité avec une réalité impersonnelle. On n'a pas d'intimité avec la nature. On n'a pas non plus d'intimité avec un animal. L'intimité, c'est une relation de personne à personne. Alors, avec ces différents éléments, l'intimité est une relation de personne à personne, c'est une liaison, une relation étroite et familière, ça se construit dans la durée. Est-ce qu'il est possible de vivre une intimité avec Dieu ? Est-ce qu'on peut avoir avec Dieu des relations étroites et familières ? Je crois que la réponse à cette question est oui, sinon ce sera la fin de l'étude. Mais je crois aussi qu'il est nécessaire de préciser un peu plus en détail en quoi cette intimité consiste, aussi ce qu'elle n'est pas, ce sur quoi elle se fonde, la manière de la vivre et de l'entretenir, la manière de la retrouver quand on l'a perdue. Et donc, puisque j'ai dit que l'intimité est une relation de personne à personne, je vais commencer par dire aussi encore une vérité assez évidente, mais importante à souligner, le Dieu de la Bible est un Dieu personnel. La Bible nous révèle un Dieu personnel, un Dieu qui parle, un Dieu qui pense, un Dieu qui a une volonté, un Dieu qui entre en relation. Plus précisément encore, la Bible nous révèle un Dieu en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La Bible nous parle d'un Dieu trinitaire. Je rappelle juste en quelques mots ce qu'on entend par Trinité. La Trinité, c'est la doctrine selon laquelle nous croyons qu'il y a un seul Dieu, un seul être divin. Mais nous croyons aussi que le Père est Dieu, que le Fils est Dieu, et que le Saint-Esprit est Dieu. Et pourtant, nous croyons aussi que le Père n'est pas le Fils ni le Saint-Esprit, que le Fils n'est pas le Père ni le Saint-Esprit, et que le Saint-Esprit n'est pas le Père ni le Fils. Donc, les trois sont distincts, trois personnes, mais un seul être divin. Et je crois que le mystère de la Trinité a énormément de choses à nous dire sur le sujet de l'intimité avec Dieu. Et je sais que c'est un peu compliqué, je vous demande juste un peu d'attention sur ce point qui sera peut-être compliqué, mais en même temps, je pense que c'est vraiment important et je pense que ça c'est pas simplement de la théorie, mais que ça touche à notre vie avec le Seigneur. Qu'est-ce que la doctrine de la Trinité nous dit sur l'intimité avec Dieu ? Elle nous dit d'abord une chose surprenante, c'est que l'intimité est quelque chose qui existe en Dieu de toute éternité. L'intimité, ça existe en Dieu de toute éternité. Alors, c'est une manière de parler de ce qui existe en Dieu à la manière des hommes, bien sûr, mais ça nous dit une vérité qui est très importante. Un texte de l'Église ancienne disait « Dieu est unique, mais non pas solitaire. » Dieu est unique, mais non pas solitaire. Donc l'intimité, c'est quelque chose, avant d'être quelque chose qui caractérise notre relation à Dieu, c'est quelque chose qui existe en Dieu. Et ça, ça a une deuxième implication, c'est que Dieu n'a pas besoin de nous pour avoir la réalité de l'intimité. Il n'a pas besoin de rentrer en relation avec ses créatures pour bénéficier de l'intimité. Il ne nous a pas créés parce qu'il était solitaire et qu'il avait besoin de nous pour connaître l'intimité. L'intimité existe en Dieu de toute éternité. Et ça manifeste cet attribut de Dieu selon lequel Dieu est absolument indépendant de tout ce qu'il a créé. Il n'a besoin de nous sous aucun rapport. Il n'a pas besoin d'avoir une créature pour que quelqu'un l'aime. Il n'a pas besoin d'avoir une créature pour être dans une relation d'intimité. Parce que l'intimité et l'amour existent en Dieu, de toute éternité. Parce que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit, parce que Dieu est unique, mais non pas solitaire. Et que Dieu soit un Dieu personnel, que l'intimité existe en lui de toute éternité, le rend capable d'entrer librement dans une relation d'intimité avec ses créatures. Nous pouvons être sûrs, si je puis dire les choses ainsi, que Dieu ne rentre pas dans une relation d'intimité avec nous par intérêt, mais par un amour réel, parce que il a déjà l'amour en lui, il a déjà l'intimité en lui. Et quand il nous offre l'intimité, c'est un débordement de son amour qu'il nous donne pour que nous en bénéficions. C'est parce que Dieu est Trinité qu'il peut nous offrir une intimité avec lui. Dans une ancienne confession de foi, on lisait les mots suivants, après avoir défini la doctrine de la Trinité dans un langage très technique. L'article sur la Trinité se terminait avec ces mots. La doctrine de la Trinité est le fondement de toute notre communion avec Dieu et de notre dépendance, source de réconfort de lui. La doctrine de la Trinité est le fondement de toute notre communion avec Dieu et de notre dépendance, source de réconfort de lui. Si nous avons communion avec Dieu, si nous avons intimité avec Dieu, et si le fait de dépendre totalement de Dieu peut être une source de réconfort, c'est parce que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Et voyez ce qui se passe dans une religion dans laquelle on croit en un Dieu unique, mais pas trinitaire. Il me semble, sans être un spécialiste du sujet, que si vous regardez ce qui se passe dans l'islam, c'est pas l'intimité avec Dieu. Et que la dépendance de Dieu est davantage source de presque de fatalité parfois que de réconfort. C'est la réalité de la Trinité qui fait que notre communion avec Dieu est possible et qu'elle peut être source de réconfort. Un ancien théologien des premiers siècles de l'Église faisait le discours suivant à des gens qu'il était sur le point de baptiser, des futurs baptisés. Il leur disait « Avant toute chose, gardez-moi ce bon dépôt pour lequel je vis et je combats, avec lequel je veux mourir, qui me fait supporter tous les maux, tous les malheurs, et mépriser tous les plaisirs. Je veux dire la profession de foi en le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Je vous la confie aujourd'hui. C'est par elle que je vais tout à l'heure vous plonger dans l'eau et vous en élever. Je vous la donne pour compagne et patronne de toute votre vie. » Quand nous sommes baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ça veut dire que nous devenons officiellement la propriété du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est comme s'il nous était dit « Voici ton Dieu, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voici le Dieu dans l'intimité duquel tu es admis. Voici le Dieu dans l'intimité duquel tu es appelé à rentrer jour après jour. C'est là ton Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. » Et cette grâce de l'intimité avec le Dieu trinitaire est une grâce tellement grande et tellement forte que, comme le disait ce théologien, si on la comprend, elle peut nous donner la force de supporter tous les maux et de mépriser tous les plaisirs, nous donner les ressources nécessaires pour vivre et mourir pour le Seigneur. Je crois qu'il serait difficile d'exagérer la portée de la doctrine de la Trinité quand on parle de l'intimité avec Dieu. Jésus a dit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous ferons notre demeure chez lui. » Jean chapitre 14, verset 23. Le Dieu trinitaire vient faire sa demeure chez nous. Et quand Jésus dit que lui et le Père viendront faire leur demeure chez le croyant, tout le contexte du texte dans Jean 14 nous montre que c'est par le Saint-Esprit qui le fait. C'est la Trinité qui est en cause ici. Alors, je ne suis pas sûr que je réussis à expliquer suffisamment l'importance de ce point. Je voudrais juste faire signe dans cette direction et vous encourager à y réfléchir plus profondément. Mais ce que je voudrais vous dire, c'est ne croyez pas que la doctrine de la Trinité, c'est une spéculation abstraite pour théologie. C'est vraiment le fondement de tous les fondements. C'est la source du bonheur. Et c'est la source et le fondement de notre intimité avec Dieu. Si vous cherchez l'intimité avec Dieu, si vous cherchez la communion avec Dieu, méditez sur la Trinité. Si vous cherchez la communion avec Dieu, si vous cherchez l'intimité avec Dieu, souvenez-vous de votre baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pour moi, ça a vraiment été quelque chose, c'est l'un des points importants de mon expérience de l'intimité avec Dieu, de découvrir la doctrine de la Trinité, découvrir que Dieu est le Dieu trinitaire. Et je ne sais pas bien l'exprimer avec des mots, mais je suis sûr que s'il y a possibilité d'une intimité avec Dieu, ça n'est que parce que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit. Et que plus on découvre ce mystère de la Trinité, plus on se plonge dans la vérité du mystère de la Trinité, plus on est émerveillé par ce Dieu et plus on a envie d'être en communion et en intimité avec lui. Donc, si vous vous intéressez à l'intimité avec Dieu, fouillez dans cette direction. Et fouillez profondément dans cette direction. Le deuxième point, après avoir dit que Dieu est un Dieu personnel et tripersonnel, c'est de dire que le Dieu de la Bible est le Dieu de l'Alliance. Si l'intimité avec Dieu se fonde d'abord et avant tout sur la vérité de la Trinité, la vérité de la Trinité ne donne pas à elle toute seule l'intimité avec Dieu. Parce que Dieu est un Dieu personnel qui a les richesses de l'intimité en lui-même, Dieu peut nous offrir une intimité avec lui. Mais il y a une chose qui est vraie déjà dans les rapports entre les êtres humains, c'est que l'intimité avec une personne n'est possible que si cette personne vous l'offre. Quand vous êtes en face de quelqu'un, s'il se ferme, vous ne pouvez pas dire « je vais rentrer en intimité avec toi ». À un moment ou à un autre, il faut que la personne s'ouvre. Une intimité, c'est quelque chose qu'une personne choisit d'offrir. Et ça, c'est déjà vrai au niveau humain. Je ne peux pas choisir de venir vers vous en disant « bon, ben maintenant, on va vivre une relation d'intimité, j'ai décidé ». Et si c'est vrai au niveau humain, c'est encore plus vrai quand on parle de Dieu. Nous ne pouvons pas entrer dans l'intimité avec Dieu si ce n'est pas Dieu qui nous offre l'intimité. La Bible dit que Dieu habite dans une lumière inaccessible que ni l'homme n'a vue ni ne peut voir. Jésus dit « Personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. » Dieu ne peut être connu que s'il se révèle. Il ne peut être approché dans l'intimité que s'il nous offre l'intimité. Et le cadre biblique pour l'intimité avec Dieu, c'est le cadre de l'alliance. Une alliance, c'est un engagement mutuel, dans lequel, quand il s'agit d'une alliance avec Dieu, c'est Dieu qui fixe le cadre et qui fixe toutes les conditions. Et l'une des caractéristiques d'une alliance, c'est que c'est une relation entre des personnes et c'est une relation de vis-à-vis. Une relation qui passe aussi beaucoup par la parole. L'intimité que Dieu nous offre, c'est une intimité d'alliance. Une intimité dans laquelle il a fixé un cadre de relation, dans lequel il y a des engagements mutuels, dans lesquels on est en vis-à-vis. Et ce n'est pas une relation de fusion.
Dieu ne nous appelle pas à une relation dans laquelle on se fondrait en lui. Une relation dans laquelle il s'agirait d'une sorte d'expérience mystique dans laquelle les paroles disparaîtraient. Nous sommes dans une relation d'alliance avec Dieu.
La Bible nous présente la situation de la création des humains au commencement comme un cadre d'alliance dans lequel se vivait une intimité avec Dieu. Je crois que c'est au moins une partie du sens de l'arbre de vie qui était dans le jardin d'Éden. L'arbre de vie, c'est la communion avec Dieu. Et l'homme mangeait l'arbre de vie. Ce n'est que à partir du moment où il a péché que le chemin de l'arbre de vie a été barré. Mais Dieu avait dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, donc y compris l'arbre de vie. C'est pas l'arbre de vie qui était exclu, c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le chapitre 3 de la Genèse, après le péché, nous montre, vous vous souvenez, Adam et Ève pêchent, et puis ils entendent Dieu qui se promène dans le jardin avec la brise du soir. Je crois qu'on peut très bien imaginer que c'est une manière de dire que c'était ça qui était leur réalité quotidienne. Tous les jours, Dieu se promenait dans le jardin et allait à la rencontre de l'homme et de la femme. Ils avaient au départ une relation d'intimité avec Dieu, une relation d'alliance avec le Dieu de la Bible. Mais voilà, nous savons tous que l'alliance a été rompue. L'homme et la femme ont désobéi. L'alliance a été brisée. Et ça me fait arriver à mon troisième point. Donc j'avais dit, premier point, Dieu est un Dieu personnel. Deuxième point, il est le Dieu de l'alliance. Et mon troisième point, ce sera pour dire que pour un pécheur, l'intimité avec Dieu est quelque chose de problématique. Pour un pécheur, l'intimité avec Dieu n'est pas du tout évidente. En fait, pour un pécheur, à la base, l'intimité avec Dieu est même impossible. Je voudrais simplement lire un verset du chapitre 33 du livre du prophète Ésaïe, dans lequel il est dit, Ésaïe 33, verset 14, « Les pécheurs sont effrayés dans Sion. Un tremblement saisit les profanateurs. Qui de nous pourra séjourner auprès d'un feu dévorant? Qui de nous pourra séjourner auprès des brasiers éternels ?» Je voudrais vous parler d'un homme dont on entend parler un peu cette année, si vous suivez l'actualité religieuse. C'est Martin Luther. C'est les 500 ans de la réforme. Martin Luther est un homme dont on dit, alors il y a certains éléments de son histoire dont on n'est pas tout à fait sûr, mais dont on dit qu'un jour, il voyageait et il a été pris dans un orage. Il a été tellement terrorisé qu'il a fait un vœu, il s'est adressé à une sainte, sainte Anne, en disant « si je m'en sors, je me ferai moine ». L'orage s'est calmé, il s'en est sorti. Il a peut-être un petit peu regretté sa promesse, mais s'est quand même fait moine. Et puis, quelques temps après, il a été ordonné prêtre. Donc, dans l'Église catholique, le prêtre, c'est celui qui peut offrir ce que les catholiques appellent le sacrifice de la messe. Le sacrifice de la messe, c'est un rituel, surtout à l'époque, dans lequel les choses sont très codifiées. On fait les gestes tels qu'ils sont prévus, on dit les paroles telles qu'elles sont prévues. Et au jour de sa première messe, Luther arrive à une prière dans laquelle qui commence par ces mots, « Dieu vivant, vrai et éternel, nous t'offrons. » Alors on raconte, j'ai pas réussi à trouver la source de la citation, alors ça m'ennuie un petit peu, mais je vous lis ce que j'ai trouvé. On raconte qu'à ce moment-là, Luther a été terrorisé. On raconte même qu'il a fallu le retenir pour qu'il s'enfuit pas. Et qu'il s'est dit la chose suivante, « M'adresserai-je à la majesté divine avec cette langue en sachant que tout homme devrait trembler en présence d'un prince de la terre ? Qui suis-je pour lever les yeux ou tendre les mains vers la majesté divine ? Les anges l'entourent. Au moindre signe de sa tête, la terre tremble. Et moi, qui ne suis qu'un misérable petit pygmée, comment oserais-je dire « je désire ceci, je demande cela » car je suis poussière et cendre et profondément pécheur, et voici que je parle au Dieu vivant, éternel et vrai. » Qu'en pensez-vous ? Pour le jeune Martin Luther, l'idée d'intimité avec Dieu n'avait vraiment, vraiment, vraiment rien d'évident. Et quand il se rendait compte de qui est Dieu, intimité avec Dieu, le Dieu vivant, éternel et vrai, il se disait pas « Waouh, je vais entrer en intimité avec Dieu, je m'adresse à lui, c'est super ». Il disait « Mais c'est terrifiant, parce que je suis poussière et cendre, et profondément pécheur ». Il y a des éléments dans la Bible qui vont dans ce sens. Vous savez, « Je suis poussière et cendre », c'est une parole biblique, c'est Abraham qui dit ça à Dieu, lorsqu'il s'adresse à Dieu, lorsqu'il essaye d'intercéder pour Sodome. Il dit « Voici que j'ai osé adresser la parole à Dieu, moi qui ne suis que poussière et cendre ». Et c'est Jésus qui raconte l'histoire du pharisien et du publicain, dans laquelle le publicain se tient à distance, n'ose pas lever les yeux au ciel, se frappe la poitrine et dit « Dieu soit apaisé envers moi, un pécheur ». Pour quelqu'un qui est poussière et cendre, et surtout pour quelqu'un qui est pécheur, l'intimité avec Dieu n'a rien d'évident. Après que l'homme et la femme ont brisé l'alliance établie au commencement, leur seule espérance de salut et leur seule espérance d'intimité avec Dieu, c'est que Dieu veuille bien faire une nouvelle alliance sur une base de grâce. Or, la grâce n'est jamais évidente. La grâce ne va jamais de soi. Quelqu'un a dit « Dieu pardonnera, c'est son métier ». C'est faux. C'est faux. Le pardon n'est jamais évident. Le pardon n'est jamais quelque chose qui va de soi. Le pardon n'est pas quelque chose où on peut se dire « Ah bah oui, oui, Dieu pardonne, il est là pour ça ». Non. Il est le Dieu vivant, éternel et vrai, le Dieu saint, le feu dévorant. La grâce n'est jamais évidente. Et si nous devons pouvoir rentrer dans une relation d'intimité avec Dieu, il nous faut une alliance de grâce. Parce que sinon, si nous devons tenir devant Dieu sur la base de qui nous sommes et de ce que nous faisons, nous ne pouvons qu'être consumés immédiatement. Il nous faut une alliance de grâce et nous croyons que c'est ce que Dieu a fait. Une confession de foi de la Réforme dit « Nous croyons que notre bon Dieu, par sa merveilleuse sagesse et bonté, voyant que l'homme s'était ainsi précipité en la mort, tant corporelle que spirituelle, et rendu du tout malheureux, s'est lui-même mis à le chercher. Dieu s'est lui-même mis à le chercher lorsqu'il s'enfuyait de lui tout tremblant, et le console, lui faisant promesse de lui donner son fils, fait de femme, pour briser la tête du serpent et le faire bienheureux. » Toute l'histoire que la Bible raconte après le péché nous montre comment Dieu fait de nouveau rentrer des hommes, des femmes, des enfants, des vieillards, des jeunes, dans une relation d'intimité avec lui. Il rentre en relation avec eux individuellement et il se constitue un peuple dont il est le Dieu. Et cela, tout cela, il le fait par grâce, sur la base de l'œuvre du Christ. Sur la base de l'œuvre du Christ en avance dans l'Ancien Testament, sur la base de l'œuvre du Christ accomplie dans le Nouveau Testament, mais toujours sur la base de l'œuvre du Christ. C'est la justice du Christ, c'est son obéissance à la loi à notre place, c'est sa souffrance sur la croix en punition de la loi à notre place qui nous ouvre les portes de l'intimité avec Dieu. Au moment où Jésus est mort, il nous a dit que le voile du temple s'est déchiré en deux. Le voile qui finalement barrait symboliquement la route de l'intimité avec Dieu. C'est déchiré en deux par le milieu. Et ça veut dire une chose très importante, ça veut dire que celui qui s'appuie sur Jésus, celui qui s'appuie sur l'œuvre de Jésus, peut réellement s'approcher de ce Dieu vivant, éternel et vrai qui faisait si peur à Luther. Celui qui s'appuie sur Jésus et sur son œuvre de salut à la croix peut s'approcher du Dieu vivant, éternel et vrai, peut lui parler, peut être assuré que ce Dieu le regarde et l'écoute avec bienveillance, qu'il l'accueille dans son intimité au sein du peuple des rachetés. L'enseignement biblique sur l'intimité avec Dieu dont le croyant bénéficie est un enseignement extrêmement riche. On pourrait On pourrait passer des heures et des heures à regarder toutes les facettes de cet enseignement. Je vais en
citer quelques-unes de ces facettes sans les développer, et puis il y en a une dont je voudrais parler un petit peu plus. Par exemple, on pourrait penser à tout ce qui est dit dans le chapitre 10 de l'Évangile selon Jean, de la relation de Jésus avec ceux qui lui appartiennent comme le bon berger avec ses brebis. Comme on l'a chanté, le texte de Jean 10 dit qu'il les appelle toutes par leur nom. Et il dit, « Moi, je suis le bon berger, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Je leur donne la vie éternelle, elles ne périront jamais. Personne ne les arrachera de ma main. » Ça, c'est une manière extraordinaire de décrire l'intimité avec le Seigneur qui nous est offerte. Il nous connaît par notre nom. Il nous guide. Et il ne permet pas que nous soyons arrachés de sa main. Une autre manière de parler de l'intimité avec Dieu dans la Bible, c'est cette image de la marche. Elle apparaît très tôt. Elle apparaît dès le chapitre 5 de la Genèse pour parler d'Enoch, dont il est dit qu'il a marché avec Dieu. C'est très fort comme image d'intimité avec Dieu. On ne marche pas avec quelqu'un sans s'être mis d'accord avec cette personne pour marcher avec et en ajustant son pas à cette personne. C'est une très grande grâce que Dieu nous fait de marcher avec nous. Il y a aussi toutes les images dans lesquelles la Bible nous parle de venir nous réfugier sous les ailes de Dieu, même sous ses plumes dans le psaume 91. Il nous offre cette protection rapprochée. Mais c'est une protection rapprochée qui n'est pas simplement une sorte de protection militaire, mais c'est une protection presque, on pourrait dire, maternelle. C'est l'image de l'oiseau, de la poule, qui prend ses poussins sous ses ailes. Mais je crois que le moyen peut-être privilégié pour présenter l'intimité du croyant avec Dieu dans le Nouveau Testament, c'est le rapport père-enfant, ou père-fils et fille. Ça, c'est comme ça que la Bible parle de notre intimité personnelle avec Dieu. Il y a aussi l'image conjugale, mais l'image conjugale, elle est plutôt réservée pour la relation de Dieu avec son peuple, ou la relation de Jésus avec son Église. On n'a pas, désolé parce que c'est dans certains champs, mais on n'a pas Jésus et mon bien-aimé en relation personnelle avec Dieu. C'est plutôt l'Église qui est la bien-aimée du Christ. Mais pour la relation du croyant avec son Dieu, c'est plutôt l'image, et c'est plus qu'une image, c'est une réalité. C'est la relation père-fils, père-fille, père-enfant. Et je voudrais encore vous lire un passage d'une confession de foi qui définit ainsi l'adoption des croyants et qui dit tout en quelques mots. « Tous ceux qui sont justifiés, Dieu daigne en et à cause de son Fils unique Jésus-Christ les rendre participants de la grâce d'adoption, par laquelle ils sont ajoutés au nombre des enfants de Dieu et jouissent des libertés et des privilèges que ce titre leur reconnaît. Son nom est mis sur eux. Ils reçoivent l'esprit d'adoption, ont accès au trône de la grâce avec assurance et peuvent s'écrier « Abba, Père ». Ils sont l'objet de la compassion, de la protection, du secours et du châtiment de Dieu comme d'un Père, sans pourtant être jamais rejetés, car ils sont scellés pour le jour de la rédemption et héritent des promesses en tant qu'héritiers du salut éternel. Il y a beaucoup de choses dans ce petit résumé. Et je voudrais simplement souligner, ce sera la dernière partie de mon étude de ce matin, trois points sur notre relation avec Dieu comme enfant de Dieu. D'abord, il y a l'invocation de Dieu avec le mot « Abba », qui était dans le texte biblique que j'ai lu au début. « Abba ». Il en est question pour les croyants dans Romains 8, dans le texte que nous avons lu, et aussi dans Galates au chapitre 4. Lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi, pour que nous recevions l'adoption. Mais parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». C'est aussi la manière dont Jésus s'adressait à Dieu. On le voit en particulier dans le chapitre 14 de l'évangile de Marc, dans lequel, dans le jardin de Gethsémané, Jésus s'adresse à Dieu comme ça en disant « Abba ». Nous avons le privilège de pouvoir parler à Dieu le Père avec le même mot que Jésus utilisait. Abba, ça nous montre vraiment que, pour reprendre ma définition du début, Oui, nous pouvons avoir avec Dieu des relations étroites et familières. Appeler Dieu Abba, c'est bien une relation étroite et familière. En même temps, le texte biblique nous donne la traduction. C'est un mot araméen, Abba, et le Nouveau Testament a été écrit en grec. Et donc, vous avez un mot araméen au milieu d'un texte grec. Et donc, le terme, il est traduit. Abba, père. Pas papa. Père. On a la traduction dans le texte. Et je pense qu'il y a parfois un petit abus dans ce que nous disons dans certaines églises ou dans certains chants. Le mot, il nous est traduit dans le texte. C'est père. Et le père, dans la culture d'Israël à l'époque, était sans doute une figure d'autorité un tout petit peu plus forte que ça peut être le cas en France au début du XXIe siècle. Alors, c'est bien une relation d'intimité. C'est la relation que Jésus avait avec son père. Mais il ne faudrait pas que l'intimité et la familiarité virent à la vulgarité. Et franchement, j'ai trouvé sur un site internet chrétien l'idée de s'éclater avec Dieu. Et ça, je ne crois pas que ce soit l'intimité à laquelle Dieu nous appelle. L'intimité que nous avons avec Dieu, ce n'est pas « je m'éclate avec Dieu, avec mon papa » ou quelque chose comme ça. C'est le Père. Et avec tout ce que la figure du Père évoque comme autorité aimante et bienveillante, mais quand même, le Dieu qui est celui dont on ne peut concevoir de plus grand. Et je pense qu'il y avait sans doute un petit peu plus d'équilibre dans ce vieux chant qui parlait de « avec la liberté d'un fils devant son Père et le saint tremblement d'un pécheur devant Dieu ». C'est mieux que « je m'éclate avec le Père ». L'invocation de Dieu comme Père est directement liée à Jésus et à son œuvre. Je vous ai dit, c'est le nom que Jésus se donnait. Et Jésus nous entraîne là-dedans. Après la résurrection, quand il parle à Marie, il lui dit « Va dire à mes frères que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » C'est lui qui nous entraîne comme ça. Notez qu'il n'a quand même pas dit « notre Père ». Jésus dit, il maintient toujours qu'il a une relation unique avec Dieu. Mais il nous entraîne à sa suite. Et il est fait notre grand frère. Le Fils de Dieu est notre grand frère. Romains chapitre 8, il est le premier-né d'un grand nombre de frères. Et il nous entraîne dans cette relation d'intimité avec Dieu. Notre adoption et notre intimité avec Dieu sont liées à la vérité de notre union avec le Christ. Et quand nous sommes unis au Christ qui fait de nous ses frères et qui nous met dans cette relation de pouvoir appeler Dieu comme lui l'appelle et d'être co-héritier avec lui, de Dieu. Ouh là 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 là, le temps passe. Je n'ai pas tout à fait fini, je continue encore un tout petit peu. Il y a un autre point dans le texte de Romains 8 que nous avons lu, que je voulais souligner, c'est le témoignage intérieur du Saint-Esprit. À l'invocation de Dieu comme Père, le texte de Romains 8 joint le témoignage du Saint-Esprit. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est un sujet très mystérieux. Un commentateur de ce texte dit que, d'ailleurs, probablement la manière dont l'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu varie d'une personne à l'autre, et qu'il y a toute une richesse de la possibilité d'action que Dieu a. Mais c'est un élément particulièrement important. Finalement, c'est par l'Esprit que nous appelons Dieu Père. C'est lui qui, mystérieusement, par les moyens qui lui sont propres et comme il le veut, nous convainc que Dieu est vraiment notre Père, qui ouvre nos yeux sur la relation Père-enfant dans laquelle Dieu nous a fait entrer. Vous voyez, la perspective trinitaire, elle est là. Nous sommes admis dans l'intimité du Père, sur la base de Jésus, et de notre union avec lui, sur la base de ce que Jésus est, il est le Fils unique de Dieu, et de ce qu'il a fait, il s'est fait semblable à nous en tout, et il a accompli l'œuvre du salut. Nous sommes admis dans l'intimité du Père, sur la base de Jésus, et de notre union avec lui, par l'action du Saint-Esprit, qui nous unit à Jésus, et qui nous fait crier « Abba, Père », qui témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et puis le dernier point, c'est le privilège des enfants.
les privilèges des enfants. Le texte de la confession de foi que j'ai lu mentionne de nombreux privilèges qui sont liés à l'intimité avec Dieu. Parmi eux, il faut noter en particulier pour notre sujet donc l'accès au trône de la grâce. Le voile a été déchiré, nous pouvons vraiment nous approcher du Dieu vivant, éternel et vrai, en sachant que nous allons être bien accueillis, en sachant que nous n'allons pas être consumés. Pourquoi ? Parce que nous sommes couverts par la justice du Christ. Donc quand Dieu nous regarde, il voit quelqu'un qui a fait parfaitement tout ce qu'il voulait. Parce que ce que Jésus a fait est mis sur notre compte. Tout est accompli, tout est réglé. Nous sommes couverts par la justice du Christ. Nous avons, Galates 3 dit, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. C'est revêtu du Christ que nous nous approchons de Dieu. Et du coup, nous ne pouvons que être bien accueillis. On ne peut pas ne pas être bien accueillis en présence de Dieu si on est revêtu du Christ, parce que la Bible dit qu'en Christ, Dieu a mis toute son affection. Nous avons accès au trône de la grâce et la hardiesse pour nous approcher de Dieu avec confiance. Et puis, il y a aussi le soin particulier que Dieu prend des siens. Il est présent dans notre vie. Il est vraiment présent. En tant que père, il est un père présent. Peut-être que vous avez relevé ça dans le texte de la confession de foi que j'ai lu. La présence de Dieu inclut aussi ses châtiments. Ses châtiments comme père. Et c'est peut-être pas quelque chose auquel nous aurions pensé spontanément par rapport à l'intimité avec Dieu, mais c'est bien quelque chose qui se trouve dans la Bible. Par exemple, dans l'épître aux Hébreux, nous avons ces paroles, chapitre 12, versets 5 et suivants. « Vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne prends pas à la légère la correction du Seigneur, et ne te décourage pas lorsqu'il te reprend, car le Seigneur corrige celui qu'il aime. » Et frappe de verge tout fils qu'il agrée. Supportez la correction. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils que le Père ne corrige pas? Mais si vous êtes exempt de la correction à laquelle tous on part, alors vous êtes des bâtards et non des fils. Et un peu plus loin, toute correction, il est vrai, paraît être au premier abord un sujet de tristesse et non de joie, mais plus tard, elle procure un paisible fruit de justice à ceux qu'elle a formés. Les seuls enfants qui ne sont pas corrigés par leurs parents, c'est les enfants dont on ne s'occupe pas. Dans un monde pécheur, avec des enfants pécheurs, les seuls enfants qui ne sont pas corrigés, c'est les enfants qu'on n'aime pas, dont on ne s'occupe pas, qui sont mis à l'écart. La présence et l'intimité dont nous bénéficions avec Dieu impliquent aussi le châtiment et la correction. Mais le châtiment et la correction d'un père qui produit un paisible fruit de justice chez ceux qu'elle a formés. Et finalement, c'est aussi une partie de notre intimité avec Dieu et qui façonne ensuite une plus grande intimité avec Dieu, un paisible fruit de justice. Je conclus en disant que les privilèges des enfants de Dieu sont irrévocables. Quand il nous corrige, c'est jamais pour nous rejeter. C'est pour former en nous un paisible fruit de justice. L'intimité à laquelle Dieu nous fait participer, c'est de le connaître, lui, le seul vrai Dieu, et celui qu'il a envoyé, Jésus-Christ. Et cette connaissance, c'est la vie éternelle. C'est une connaissance d'intimité éternelle à laquelle le Seigneur nous invite. C'est dans son intimité pour l'éternité qu'il nous fait vivre. Pour l'éternité, nous sommes fils et filles du Dieu vivant, éternel et vrai.